Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Le programme du Pape Assise rendu officiel par le Vatican, une journée intense entre pèlerinage sur tous les lieux marquants de la ville de Saint-François, prières et rencontres avec les enfants malades et les pauvres. Le cardinal Le Sandri achève une visite au Kazakhstan, il y a notamment rencontré la petite communauté grecque catholique. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a pu observer un pays où règne selon lui la liberté religieuse. Une église qui a le courage d'une femme qui sait que ses enfants sont siens et qui doit les défendre et les amener à la rencontre avec son époux. C'est ce que le pape a notamment déclaré lors de sa traditionnelle messe du matin dans son homélie. Les évêques du Burkina Faso, opposés à la création d'un Sénat, ils l'ont réaffirmé directement au président Blaise Compaoré vendredi dernier lors d'un tête-à-tête sur ce projet présidentiel, projet qui ne reçoit que peu de soutien de la part de la société civile. Et puis nous entendrons Mgr Lafont, évêque de Cayenne. Il nous racontera sa rencontre avec le pape François il y a quelques jours. Un entretien entre deux hommes venus du bout du monde. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Journée chargée donc pour le pape lors de sa visite le 4 octobre prochain à Assise. Le programme de ce qui a été présenté comme un pèlerinage personnel sur les traces de Saint François a été révélé officiellement ce mardi par le Vatican. Le pape passera donc toute la journée du 4 octobre, de 8h du matin à son arrivée jusqu'à 19h de son départ sur place à Assise. L'aller-retour se fera en hélicoptère. Le pape suivra tout un parcours qui lui permettra de se recueillir sur les lieux emblématiques de la vie de Saint François d'Assise. Détail du programme avec Olivier Tosserie.
Entre recueillement et rencontre, le pape François ne manquera pas de saluer les enfants handicapés et malades de l'Institut franciscain d'Assise, ainsi que les pauvres soutenus par la Caritas dans la matinée, dès son arrivée, pauvres avec lesquels il déjeunera par la suite. L'après-midi, il rencontrera les prêtres, les personnes de vie consacrées et les membres des conseils pastoraux du diocèse dans la cathédrale avant de s'entretenir avec les jeunes de Lombrie, la région où se situe Assise. Entre deux rendez-vous, le pape se rendra de manière privée au sanctuaire de Saint-Damien, en l'église de Sainte-Marie-Majeure, en la basilique supérieure de Saint-François et dans la crypte pour prier sur la tombe du Saint. Il célébrera ensuite la messe sur la place Saint-François d'Assise et offrira de l'huile pour la lampe votive au Saint, patron de l'Italie. Après déjeuner, les visites privées reprennent à l'ermitage des prisons, à la crypte de la basilique de Sainte-Claire pour y prier le corps de la Sainte. François priera aussi devant le crucifix de Saint-Damien dans la chapelle du cœur de la basilique de Sainte-Claire. Il en profitera pour adresser quelques mots au monial. Le pape ne pouvait manquer de se rendre à la Portioncule dans la basilique de Sainte-Marie-des-Anges. Enfin, dernière visite consacrée au sanctuaire du Rivotorto et du Tugirio. Cette journée sera donc essentiellement consacrée à la prière et à la rencontre avec celles et ceux qui recueillent toute l'attention du pape François, les enfants, les malades et les pauvres, comme saint François avant lui.
Olivier Tosserie. Messe matinale en la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican ce mardi. Le pape, dans son homélie, est revenu sur le passage de l'évangile dans lequel Jésus rencontre la veuve de Naïm pour évoquer la dimension de veuvage au sein de l'Église. Hélène Destombes.
Cette veuve de Naïm est une icône de l'Église parce que l'Église aussi est dans un certain sens une veuve. Le pape François explique ensuite que son époux est parti et qu'elle chemine dans l'histoire en espérant le trouver, le rencontrer. Le Saint-Père décrit alors une Église courageuse. Elle a, a-t-il précisé, le courage d'une femme qui sait que ses enfants sont siens et qui doit les défendre et les amener à la rencontre avec son époux. Notre Église, a poursuivi le pape, est une Église qui, lorsqu'elle est fidèle, sait pleurer. Quand l'Église ne pleure pas, c'est que quelque chose ne va pas. Elle pleure ses enfants et prie, a-t-il insisté. Une Église qui va de l'avant et fait grandir ses enfants, leur donne la force et les accompagne jusqu'à la dernière heure pour les laisser entre les mains de son époux, qu'elle finira, elle aussi, par rencontrer. C'est notre mère l'Église, je la vois à travers la figure de cette veuve qui pleure. Et que dit le Seigneur à l'Église, s'interroge le pape. Ne pleure pas. « Je suis avec toi et je t'accompagne. Ton fils qui était mort vit maintenant. J'ai envie de demander au Seigneur, conclut le pape, la grâce d'être toujours confiant, cette maman qui nous défend, nous enseigne et nous fait grandir. »
Hélène Destombes. Et puis le tweet du jour du pape. « Il y a beaucoup de nécessiteux dans le monde d'aujourd'hui. Suis-je enfermé sur moi-même ou suis-je sensible à celui qui a besoin d'aide ? Un tweet qui résume bien le sens de nombre d'interventions du pape lors des messes et autres rencontres qu'il a depuis son élection. Partons maintenant au cœur de l'Asie, au Kazakhstan, où s'est rendu le cardinal Leonardo Sandri, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Sa visite s'achève ce mardi, durant ses quelques jours sur place. Il a notamment consacré la nouvelle église gréco-catholique Saint-Joseph à Astana. Le cardinal Sandri s'est également rendu à Karaganda, où il a rencontré les communautés catholiques locales. Le but principal de ce voyage était la rencontre avec la communauté gréco-catholique. Les précisions de Jean-Baptiste Cocagne.
Le Kazakhstan est un pays où il est possible d'avoir une vie religieuse basée sur la liberté religieuse, sur l'exercice de cette liberté, sur le dialogue et sur le respect mutuel. Le cardinal Sandri est positif concernant la liberté de religion dans le plus grand pays d'Asie centrale, précisant que les lois permettent l'exercice de la liberté religieuse. Il y a une atmosphère générale de paix et de communion entre tous. Le cardinal a évidemment rencontré la petite communauté catholique qui y vit et qui contribue à son niveau à cet esprit de concorde et d'entente qui existe entre toutes les composantes religieuses qui travaillent ici, et en particulier avec l'islam qui est majoritaire, mais aussi avec l'église orthodoxe. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a indiqué qu'il était porteur d'un message du pape qui a voulu manifester sa proximité et accorder sa bénédiction. Temps fort de ce voyage, la prière pour la paix en Syrie et dans le monde. À ce propos, le cardinal Sandri espère que ce geste fort a contribué à illuminer et à faire bouger les cœurs de ceux qui doivent prendre des décisions d'un côté comme de l'autre, afin que la paix soit préservée.
Jean-Baptiste Cocagne. Et ce conflit syrien, ainsi que toute la situation au Proche-Orient, a irrigué le discours de Mgr Dominique Mamberti, le secrétaire pour les relations avec les États, lors de la conférence générale de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a lancé un appel afin de mettre fin à la prolifération nucléaire et a souligné qu'il était temps de dérouter le matériel nucléaire des objectifs militaires vers des activités pacifiques. Il a également encouragé les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran. Seuls les canaux diplomatiques peuvent aider à dépasser les difficultés actuelles, a-t-il notamment affirmé lors de cette rencontre. Ce n'est pas de diplomatie dont il s'agit, mais d'engagement politique. En Irak, à quelques jours des élections législatives qui doivent se tenir samedi 21 septembre dans la région du Kurdistan, le patriarche de Babylone des Chaldéens, Mgr Sacco, s'est adressé aux candidats chrétiens. Il les a appelés dans un message relayé par l'agence Fides à travailler en vue de la pleine affirmation des droits liés à la citoyenneté et à s'engager pour améliorer les conditions de logement dans les villes et les villages, les services et les infrastructures, créant des emplois de manière à ce que les chrétiens n'émigrent pas. En vue des élections législatives nationales prévues en 2014, Mgr Sacco suggère cette fois la création d'un conseil politique chrétien devant coordonner au travers d'une charte d'intention et de proposition les initiatives des baptisés impliqués dans l'activité politique au plan individuel ou au travers de formations politiques. L'engagement, les évêques catholiques burkinabés le connaissent. En juillet dernier, ils avaient publié une lettre pastorale dans laquelle ils revenaient sans concession sur la situation économique, sociale et politique du Burkina Faso. Ils critiquaient notamment le projet du président Blaise Compaoré de créer un Sénat et de modifier ainsi la Constitution. Ils attiraient l'attention du gouvernement sur les menaces que sa mise en place faisait planer, selon eux, sur la paix sociale. Ils ont eu l'occasion de le dire de nouveau, mais cette fois de vive voix au président qui a entamé la semaine dernière des consultations politiques avec les représentants des partis, des syndicats, des associations et des religions. Parmi eux, trois archevêques en poste au Burkina Faso, dont Mgr Paul Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, la capitale. Il est aussi le président de la conférence des évêques catholiques du pays. Monseigneur Ouédraogo revient pour nous sur cette rencontre et sur ce qu'il a dit au président Compaoré.
Un projet de loi a été réfléchi avec une configuration précise au niveau du Sénat. Et c'est au niveau de la configuration, quand la loi organique est sortie, qu'il y a des problèmes, effectivement. La répartition des sièges à l'intérieur de ce Sénat laissait encore beaucoup de place, je pense, aux partis politiques. Et donc, ça ressemblait à un Sénat fortement partisan, un Sénat pour lequel l'opposition n'était pas partante. Donc, ça risquait d'être un Sénat monocolore. Donc, je pense qu'il y a eu des réactions. Le chef de l'État a eu la sagesse de stopper, j'allais dire, l'opérationnalisation du Sénat et a redemandé au comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques de reprendre la réflexion maintenant sur une configuration du Sénat qui permette à cette deuxième chambre de jouer effectivement son rôle.
Sur quel autre point vous avez attiré l'attention du président Compaoré ?
L'opportunité du Sénat mérite certainement encore que l'on réfléchisse parce que nous sommes quand même à l'écoute de la population. Nous observions quand même la paupérisation qui tend à s'accroître surtout au niveau des ménages et des petits ménages. Mais je pense que là, déjà, le président comme le gouvernement, ils y avaient été sensibles. Un certain nombre de mesures sociales ont été prises pour répondre à un certain nombre de problèmes, donc la création d'emplois, des filets sociaux pour les couches les plus vulnérables, même une légère augmentation des salaires pour permettre aux familles de mieux se tirer d'affaires. Je pense qu'à ce niveau-là, des mesures appropriées sont venues, que nous saluons d'ailleurs tous à leur juste mesure.
Quelles mesures vous saluez particulièrement ?
Ces mesures économiques, je pense qu'elles valent la peine d'avoir été décidées, et surtout si on réussit à les mettre en place et que ça devient réalité. Je pense que ça va soulager une partie de la population. Et au niveau des jeunes, il y aura quand même certainement des problèmes de chômage, des résolus. Et je pense que ça, c'est certainement très bon pour notre peuple aujourd'hui.
Une priorité pour le pays, c'est le travail des jeunes ?
Certainement. Quand on regarde la structure démographique du Burkina, les jeunes constituent l'immense majorité de la population. On est pratiquement à 49% si vous prenez les jeunes qui ont moins de 20 ans. Si on va à 35 ans, cette proportion augmente. Et si vous allez à 40 ans, évidemment, vous pouvez inscrire presque 70% ou 75% de la population burkinabè. Donc ça suppose que c'est une couche sociale à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention pour que, j'allais dire, la politique ne reste pas un peu l'apanage des anciens, j'allais dire, qui s'organisent sans tenir compte suffisamment. Faites sans doute que 70 à 75% de cette population sont jeunes et il faut réussir à les intéresser certainement un peu plus aux affaires. Et il faut également, en même temps, j'allais dire, prendre au sérieux le problème de leur formation, de leur éducation et bien sûr le problème de l'emploi pour tant de forces vives. Ça, c'est sûr que c'est une priorité, là.
Monseigneur Paul Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, joint par Antonino Gallofaro. On reste en Afrique où le prix Nansen pour les réfugiés a été décerné à sœur Angélique Namaïka, religieuse congolaise qui œuvre dans le nord-est de la République démocratique du Congo en faveur des femmes victimes des violences des guerriers roses de la LRA, l'armée de libération du Seigneur. C'est une véritable héroïne, a ainsi déclaré Antonio Guterres, le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, en annonçant l'attribution de ce prix décerné donc par le HCR. Sœur Angélique Namaïka démontre qu'une personne seule peut changer les vies de familles lacérées par la guerre, ajoutait Antonio Guterres en indiquant que le Centre pour la réintégration et le développement de Dungu, animé par la religieuse, a changé la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles qui avaient été contraintes à s'enfuir et avaient été brutalisées principalement par la LRA. En Allemagne, Mgr Zollitsch, archevêque de Fribourg en Brixgau, a donné sa démission au titre du canon 401, paragraphe 1 du code de droit canon, démission acceptée, Mgr Zolic a atteint la limite d'âge. Il restera cependant à la tête de son archidiocèse en qualité d'administrateur apostolique. Décision exceptionnelle du pape François, motivée par le fait que Mgr Zolic est également président de la conférence épiscopale allemande. Or, en vertu des statuts de la conférence, le président doit être un évêque en exercice. L'heure de la retraite effective sonnera donc au printemps prochain quand un nouveau président sera élu. Le pape nommera alors un nouvel archevêque à Fribourg. Au Portugal, l'Église catholique est proche de ceux qui éprouvent les conséquences de l'appauvrissement général du pays. C'est donc une priorité pour l'Église de défendre ceux qui n'ont que des retraites minimums, ceux qui ont déjà été pénalisés. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'épiscopat portugais, le père Mauro Jean, qui a résumé les travaux du Conseil épiscopal permanent réuni ces jours derniers. Toutes ces victimes de la crise doivent être non seulement épargnées par de futures coupes, mais doivent aussi être aidées à sortir de leurs conditions de pauvreté, a-t-il ajouté. L'Église portugaise s'exprimera dans les semaines à venir au travers d'un document entièrement dédié au monde du travail. Avant de se quitter, revenons un instant au Vatican. Il y a quelques jours, Mgr Lafont, évêque de Cayenne en Guyane française, ce département français d'outre-mer situé en Amérique du Sud, était à Rome. Après avoir fait le tour de la curie et des différents dicastères, il a été reçu en audience par le pape François. À cette occasion, Manuela Figi l'a rencontré. Il lui a alors raconté comment s'était passé cet entretien avec le pape, un entretien au cours duquel il a abordé une question qui lui est très à cœur, l'écologie.
Près du Saint-Père, je suis en train de plaider pour qu'il y ait un événement visible pastoralement sur les problèmes de la création, de l'avenir de la Terre et du respect que nous devons à cette création que nous sommes en train d'abîmer d'une façon dramatique. Et je sais que les congrégations produisent des documents qui sont très intéressants, mais qui sont peu lus. Ce sont les événements qui touchent. On le voit bien avec ce qui est en train de se passer autour de la guerre en Syrie. Dans ce monde d'images qui est saturé d'informations, ce sont les gestes forts. Il y a eu un geste fort, très très fort, de la part du pape Jean-Paul II à Assise pour la paix aussi, en rassemblant un ensemble de responsables de religion. Et nous pensons, je suis avec un certain nombre de savants qui pensent qu'il faudrait un geste très fort, non seulement de l'Église d'ailleurs, mais des Églises et probablement aussi des religions et des savants pour dire si nous ne respectons pas davantage la Terre, elle ne nous respectera plus.
Qu'est-ce que vous entendez par un geste concret ?
Quelque chose comme Assise, c'est-à-dire un rassemblement, peut-être un colloque de 2 ou 3 jours qui rassemble un certain nombre de savants autour du Saint-Père, un certain nombre de responsables religieux. Je pense par exemple que le patriarche orthodoxe Bartholoméos Ier est très sensible à cette question et que d'une certaine façon, la théologie orthodoxe de la création est en avance sur la théologie catholique. Je pense aussi, je sais qu'en Amérique du Sud, par exemple, les évangélistes sont très touchés par cet aspect, peut-être plus que beaucoup de chrétiens catholiques. Et donc, un événement fort qui fasse la une des journaux mondiaux pendant au moins quelques jours et qui manifeste aussi que le problème est extrêmement sérieux et touche tout le reste. Et touche tout le reste parce que si on ne respecte pas la Terre, elle ne nous respecte pas non plus. Et comme l'a écrit très justement le pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate, respecter la création fait partie du respect de l'être humain aussi, car nous sommes intimement liés à la création. L'écologie doit être humaine. Voilà, c'est tous ces thèmes-là qui sont décrits abondamment déjà dans l'Église à travers différents conseils pontificaux. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore eu ce coup de poing, cette espèce de cri de force pour dire qu'il est grand temps, il est grand temps de vivre autrement, d'une façon plus sobre. Je sais que la conscience grandit, mais probablement qu'un geste fort serait de nature à accélérer cette conscience, cette prise de conscience et donc ce changement dans notre mode de vie qui est indispensable si nous voulons léguer quelque chose à nos petits-enfants.
M. Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, au micro de Manuela Affigi. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.